Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Un plaisir d'être de nouveau avec vous. Merci de toujours nous suivre sur les ondes de Canal M. Alors aujourd'hui, je reçois Maud Cohen, qui assume depuis un an la direction de Polytechnique Montréal, là où elle a obtenu son premier diplôme universitaire. C'est la première femme nommée depuis la fondation de Polytechnique en 1873. À part de son rôle professionnel, ce qui procure une immense satisfaction à Maud Cohen, c'est de susciter un intérêt pour les sciences chez les filles. Comme elle l'avance, et on veut bien la croire, le génie de demain sera de plus en plus féminin. Bonjour Maud Cohen. Alors, bienvenue à Vivement les femmes.
Oui.
Puis merci d'avoir accepté notre invitation.
Bien, surtout merci à vous.
Oui, oui. Et puis, donc, on a suivi l'entrée à Polytechnique Montréal. Donc, on était bien fiers de vous.
Merci.
Donc, ma première question, Maud, c'est que j'ai vu que vous avez été admise à Polytechnique 2 ans après la tuerie du 6 décembre 1989. Puis, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi ce drame a marqué votre parcours personnel, mais aussi 34 ans plus tard, est-ce qu'il y a encore des stigmates à Polytechnique?
Ben écoutez, d'abord, en quoi ça a marqué mon... Je dirais qu'il y a deux aspects vraiment qui ont été importants pour moi face à ce drame qui s'est passé le 6 décembre 1989. D'abord... J'étais au cégep lorsque ça s'est produit et je m'orientais vers la médecine et je vous dirais que rendue au cégep, je me disais « je crois pas que ça soit pour moi la médecine finalement », après des cours de biologie, etc. Je m'y voyais pas faire une carrière et donc je me suis mise à me chercher et le cégep, c'est très court lorsqu'on fait un cégep scientifique de 2 ans.
Oui.
Ça laisse peu de temps pour réfléchir. Et puis là, je m'étais mise à chercher, puis j'arrivais difficilement à mettre le doigt sur ce qui me tentait. Il y a eu les événements du 6 décembre qui ont mis la lumière sur une profession qui était peu connue pour les femmes et qui était peu, surtout, encouragée chez la femme parce que c'était pas nécessairement naturel de croire qu'une femme pouvait faire une carrière en génie. Et il y en avait eu quelques-unes quand même avant nous.
Oui, oui.
Mais à cette époque-là, on va se dire les vraies choses. Peut-être qu'on était 15 à 17 % de femmes à entrer dans l'université d'ingénierie. Donc, c'était pas quelque chose de naturel. Et puis, c'est vrai que l'événement a mis en lumière un parcours et je me suis dit, ah ben tiens, il y a des femmes. Mais ça, j'y suis pas allée parce que je me disais, ah ben moi, je vais être capable de montrer que c'est faisable.
Oui.
J'y suis allée parce que c'était un métier où il y a beaucoup de possibilités. Et le fait qu'il y ait des femmes qui étudient, ça a mis en lumière quelque chose qui n'existait pas à mes yeux. Donc, une possibilité qui n'était pas là. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, avec mon orienteur, il m'avait dit, ben, si tu essaies, il y a plein de possibilités en génie. Tu rentres dans un domaine et puis tu peux naviguer à travers tout ça. Et Polytechnique en offre plusieurs. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée en génie. Et puis, c'est vrai que ça a eu quand même un impact sur mon parcours.
Oui.
Par la suite, je suis arrivée à Polytechnique et il y a des gens qui avaient vécu ce drame-là de front. Il y a des gens qui avaient été dans la salle de classe. Moi, j'en ai connu peu à l'époque. Mais j'ai connu des gens qui ont été très marqués, par contre, par les événements, des femmes et des hommes.
Oui.
Et c'est vrai que nous, on était accueillis vraiment de façon très bienveillante par l'organisation parce que en fait, l'objectif, c'était de dire non, ça peut être un milieu accueillant pour les femmes, au contraire. Et ça a eu peut-être cet impact-là où on s'est dit, ben, comment on peut faire pour faire en sorte qu'un établissement comme Polytechnique puisse être un établissement où les femmes peuvent s'épanouir aussi. Et donc, je vous dirais qu'il y a eu cette sensibilité-là pour nous qui arrivions. Mais en même temps, il y avait une volonté pour les gens qui avaient vécu ça de près. Certaines personnes voulaient en parler davantage, d'autres étaient un petit peu plus réticentes à le faire. Donc, ça a été ce parcours-là qui était quand même un petit peu face à la tragédie, bien sûr, parce que moi, je me suis vraiment épanouie, éclatée à Polytechnique. Mais il fallait prendre en compte les gens qui avaient vécu les événements de plus près.
De plus près,
et
oui.
puis prendre en considération leur ressenti aussi mm-hmm, face à ça. Mm-hmm. Donc, ça, c'était les deux éléments. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des stigmas? Comme il y en a encore un peu partout envers les femmes, heureusement, il y en a de moins en moins. Heureusement, les milieux se veulent beaucoup plus accueillants. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'initiatives des employeurs, des universités pour favoriser l'entrée des femmes. Et à partir du moment où on réussit à atteindre une masse critique, mm-hmm. c'est là où c'est magique un peu. On commence à changer la perception.
La perception, exactement.
Et on parle souvent de ça hein, dans les équipes de gestion, sur les conseils d'administration. Quand on atteint une zone paritaire, mm-hmm. on réussit à influencer. On n'est pas obligé d'être toujours 50-50 ou 60-40.
Oui, tout à fait, oui.
Mais quand on est dans le 35-40%, 30-40%, mm-hmm. quand il y a des femmes qui commencent à avoir accès à des rôles, on atteint une zone paritaire. Et c'est la même chose pour toutes les diversités. Hein?
Exactement.
Parce que maintenant, on parle de façon beaucoup plus large.
Large de la diversité.
Exact.
Maintenant que ça représente combien d'étudiantes en pourcentage actuellement?
En fait, on est environ à 30 % à l'entrée et à la diplomation. Je dis environ là parce qu'on oscille. Là, on a atteint en 2020 30 % de diplômés.
Oui.
L'an dernier, il y en avait 33 qui rentraient.
OK.
Donc, ultimement, la moyenne se fait autour de... au bac, en tout cas, autour de 30 % c'est très bien. On veut continuer, on veut poursuivre les efforts. Et ce qu'on veut surtout, c'est que notre université ait cette diversité-là vraiment sur tous les aspects. Alors, pas juste au niveau de nos étudiantes, mais au niveau aussi du corps professoral. Donc, ça va être un petit peu plus long parce qu'il y en avait moins avant. Donc, les femmes, il faut qu'elles entrent dans une carrière scientifique encore plus poussée de recherche. Et donc, le chemin pour se rendre jusqu'au corps professoral est encore plus long.
Oui.
Et nous, on est peut-être à 17 % donc ça, ça en prend un peu plus au niveau du corps professoral. Même chose au niveau des équipes de gestion.
C'était ma question.
On aimerait avoir une plus grande représentation des femmes. Mais encore là, une université, c'est souvent administré d'abord et avant tout par des professeurs.
Oui.
Pas juste par des professeurs, mais ça veut dire qu'il faut aussi en même temps les amener la femme qui a fait un parcours de recherche, qui a fait un maîtrise, PhD, postdoc parfois, et qui s'est rendu comme professeur, il faut l'amener à envisager une carrière en gestion, ce qui n'est pas toujours évident.
Évident, exactement.
Donc y a du chemin, mais il faut y aller vraiment assurément, puis mettre des choses en place pour être certaine que celles qui ont envie de le faire, elles sont capables d'explorer ce chemin-là.
Mm-hmm. Oui. Moi, ce que j'ai aimé entendre, parce que j'ai fait de la recherche, je vous ai écouté ailleurs, c'est que d'entendre de votre parcours que vous avez aimé faire la fête durant la première année, puis que vous avez même échoué la première année. Mais je trouvais ça intéressant, puis merci d'être aussi franche, parce que au bénéfice des jeunes qui nous écoutent, comment vous avez rectifié, vous vous êtes réalignée?
Mais en fait, je le dis souvent parce que j'ai l'impression d'avoir vécu ma crise d'adolescence la première année. J'ai été tellement sage auparavant. Pas que j'ai pas fait un peu la fête au secondaire ou au cégep, mais c'est vrai que je l'avais pas fait tout autant que certaines de mes copines.
Mm-hmm.
Et puis, la première année, j'ai découvert Montréal, j'ai découvert un peu la fête, l'implication étudiante.
Oui.
L'internationalisation d'une grande ville.
Exactement,
ici. C'était vraiment très marquant. Et il fallait presque que je passe par cette étape-là. Mais c'est vrai que c'est la première fois aussi que d'un côté académique, ça a été un petit peu plus difficile.
Mm-hmm.
Et en fait, je vous dirais que c'est vraiment une combinaison de facteurs qui ont fait que je me suis relevée les manches puis que j'ai réussi à travailler. Mais ça a été d'abord par le travail avec un réseau autour de moi d'entraide qui avait certaines personnes avaient les mêmes difficultés que moi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'aider dans nos forces, dans nos faiblesses, peut-être pour essayer de s'accompagner puis réussir le parcours? Mais comment on réussit à s'organiser aussi à travers une implication que je voulais continuer et à travers un parcours académique qui demande beaucoup d'efforts? Puis je réalise aujourd'hui que ça m'a permis... Aujourd'hui, je fais plein de choses, moi. J'ai une vie personnelle que je pense épanouie. C'est vrai qu'on veut tous mettre un peu plus de temps à la famille, mais je pense que je donne ce qu'il faut à la famille. Puis j'ai un conjoint qui m'accompagne là-dedans aussi, qui est très aidant. Mais je suis impliquée sur des conseils d'administration. J'ai fait des implications bénévoles. Et j'ai un boulot qui demande quand même beaucoup, beaucoup de capacité de combiner des thèmes différents. J'ai des tiroirs un peu partout dans la tête. Mais ça demande vraiment une capacité de s'organiser puis d'être capable d'ouvrir la bonne boîte au bon moment puis de faire des liens entre deux tiroirs parfois qu'on pensait pas pouvoir faire. Mais ça, ça prend sa source vraiment dans ces années-là où j'ai appris à m'organiser, m'impliquer, continuer à faire la fête, mais et à bâtir un réseau d'entraide.
Un réseau en même temps.
Et ça a été des années d'apprentissage à cet égard-là. Ouais. Puis ça n'a pas été mes meilleures années académiques. Mm-hmm. Là, j'ai terminé avec une moyenne respectable, mais, mais respectable mais... compte tenu du fait que j'ai eu quand même une année et demie assez rocambolesque.
Oui,
là.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ouais. Alors, l'importance, si on peut dire ça comme ça, l'importance des gens aussi qui sont... Ouais. Qui nous accompagnent.
De s'entourer. De s'entourer ouais. De c'est souvent personnes. Un de mes messages aux jeunes qui arrivent à Polytechnique. Je leur dis, vous avez le choix de faire un parcours où vous allez ne faire que des études ou faire un parcours où vous allez aller chercher des compétences additionnelles et bâtir un réseau qui va vous durer jusqu'à la fin de votre carrière
exactement.
Professionnelle.
Oui, oui.
Puis encore aujourd'hui, j'ai un réseau de copains, copines qui émanent de ces années-là et de mes premières années de vie professionnelle aussi, où j'ai voyagé à l'étranger, puis on a bâti des deuxièmes, troisièmes familles à certains endroits.
C'est ça.
Mais c'est ça, c'est des réseaux de contacts, d'amis, et jamais on se laisserait tomber. Là. S'il y a quelqu'un qui nous demande de l'aide à quelque part, on va l'aider parce qu'on sait que ils vont être là aussi quand nous, on va avoir besoin de soutien.
Oui.
Donc ça, c'est quand même assez précieux, puis ça émane de ces années-là.
Oui. Je poursuis ma discussion avec Maude Cohen, présidente directrice générale de Polytechnique Montréal. Donc, sur la même lancée, Maude, lorsqu'on est à l'école, vous avez dit que vous étiez première de classe, bouboule et tout. On parle beaucoup d'intimidation. Est-ce qu'à à cette époque, vous en aviez subi ou...
En fait, moi, je qualifierais pas tout ça d'intimidation autant que... de peut-être de rejet, effectivement, je le dis vraiment de façon, j'étais rondelette. J'étais très sportive, mais j'étais quand même assez assez bien. Puis en fait, je me suis épanouie beaucoup plus jeune que bien d'autres, dans le sens où j'ai eu mes menstruations entre 10 et 11 ans.
Oui.
J'ai eu mes seins avant bien d'autres jeunes filles qui étaient très minces à la fin du primaire. Puis moi, ben mes hormones commençaient déjà à se déployer. Et c'est vrai que ça fait que notre corps change différemment
à
des moments où les autres y évoluent pas tant que ça. Et puis, j'étais première de classe et je l'admets parfois, je devais pas être super cool pour mes amis à cet égard-là parce que j'étais très compétitive puis j'allais tout le temps, bon, c'est quoi la moyenne de la classe? Est-ce que je suis en haut de la moyenne de la classe?
Okay.
C'est quoi ta note à toi, là? Tu sais, moi, j'ai eu 90 et toi? Tu sais, j'étais toujours en mode... alors, tu sais, c'est sûr que des filles qui étaient au secondaire, qui voulaient s'amuser, ben peut-être c'était moins agréable.
Oui.
Et puis, c'est vrai que j'ai eu quelques moments de rejet d'amis. Mais vous savez quoi? Avec plusieurs d'entre elles, je suis encore amie aujourd'hui.
Ah oui, hein?
Donc, ça démontre, je pense, que ultimement, c'est des moments difficiles, mais c'est du secondaire aussi. Hein,
exactement,
oui. Il se passe toutes sortes de trucs. Puis c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça après?
C'est
comment
ça.
Est-ce qu'on grandit à travers tout ça?
Ce côté de compétition, est-ce que c'est issu d'un parent? Est-ce que... Ouf, pas vraiment.
Ben, en fait, j'étais vraiment très orientée vers les résultats académiques.
OK, d'accord.
Et je voulais faire un parcours en médecine, donc j'avais envie de toujours être dans les premières.
Première
challenge. Première de classe, là, mais j'étais peut-être dans les deux, trois premières. Puis c'était vraiment ma volonté, je m'accomplissais par ça. Puis j'étais... bon, je sais que mes parents appréciaient beaucoup, puis j'avais envie de leur plaire aussi.
Oui.
Quand on est jeune, on veut plaire à ses parents. Et puis, je jouais du piano, je faisais toutes sortes d'activités. Je me suis épanouie à travers plein de trucs, mais c'est vrai que j'avais un parcours un petit peu plus intellectuel aussi que les jeunes autour de moi de Bois-des-Filions. Donc, On a appris à se connaître mutuellement à travers tout ça, puis ça m'a donné des fois un coup. Je dirais que de cette bande d'amis-là, je retiens beaucoup d'authenticité aujourd'hui.
Oui,
puis
oui.
Quand j'admets mes erreurs ou mes barrières dans mon parcours, je pense que ça me vient de là, de ne pas se prendre trop au sérieux, puis de peut-être des leçons que j'ai eues à ce moment-là
bien sûr,
face
bien
à
sûr.
Mon envie d'être première de classe tout le temps.
Ouais. Alors, on vient il y a un an, vous avez pris la place dans le bureau de direction de Polytechnique à Montréal, puis un établissement qui a 150 ans quand même. Est-ce que cela faisait partie de vos ambitions ou c'est arrivé par hasard, opportunité ou...
Ça a été une opportunité.
Oui, hein? Oui.
Vous savez, une carrière, puis encore là, j'en parle beaucoup aux jeunes.
Oui.
Il y en a peu de personnes qui savent exactement ce qu'ils vont faire à 6 ans et qui vont finalement aboutir là à mon âge, 51 ans maintenant. Donc, une carrière, c'est une série d'opportunités qu'on se crée à travers à la fois son parcours académique, mais aussi ses expériences de vie. Puis... c'est une boîte à outils qu'on va venir nourrir tout au long de sa vie. Et puis, moi, mes expériences de carrière ont fait en sorte que, à des moments charnières, j'ai décidé de prendre des pauses volontaires de 4, 5, 6 mois pour vraiment réfléchir, m'assurer que le prochain défi que j'allais prendre, j'allais pas y aller trop rapidement, mais j'allais choisir la bonne chose que j'avais envie de faire. Et puis, c'est arrivé en même temps que j'avais annoncé mon départ de la Fondation.
De la Fondation. Je suis Saint-Justine.
Un boulot extraordinaire aussi. Vraiment, je m'y suis accomplie avec une mission incroyable. Mais j'arrivais au bout de ce que je pouvais faire pour l'organisation puis ce que j'avais envie de continuer de faire. Et j'avais annoncé en octobre mon départ pour mars. En décembre, j'ai appris que Polytechnique allait ouvrir son poste et qu'ils allaient envisager un profil différent. C'est surtout ça.
Ben, c'est surtout ça, parce que c'est vrai que vous êtes... lorsqu'on regarde votre profil, c'est complètement différent, là. C'est, surtout pour avoir fait 8 ans, je crois, à la Fondation, ça amène d'autres... une certaine polyvalence, mais je pense un regard nouveau.
Et j'avais fait... En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait beaucoup de secteurs. J'ai fait le secteur privé.
Oui.
J'ai travaillé à l'international dans le secteur privé. Ensuite, je me suis investie à l'Ordre des ingénieurs bénévolement d'abord, puis ensuite à la présidence. J'ai travaillé aussi à la Fondation CHU Sainte-Justine. Donc, un mix d'organisation au BNL avec l'institution publique,
qui
est l'hôpital. Le CHU, en fait, le centre hospitalier universitaire, c'est pas juste un hôpital. Le lien avec la recherche était très fort. Donc, je pense que c'est cette diversité-là dans mon parcours d'expérience avec un parcours académique différent. J'ai pas fait de PhD, puis j'ai pas fait de recherche. Mais c'est cette diversité-là qui permettait de dire que ben, peut-être j'avais un parcours qui pouvait être intéressant pour un poste comme celui-là.
Donc, vous venez en tant que femme, mais avec un parcours différent aussi à la direction.
Exact.
Toujours en compagnie de Maude Cohen, présidente directrice générale de Polytechnique Montréal. Maude, vous êtes à Polytechnique, je sais que c'est seulement depuis un an, mais j'ose vous demander, où vous en êtes avec les enjeux peut-être qui ont été formulés? Lorsque je parle d'enjeux, je parle de développement durable, je parle de diversité, d'inclusion. Donc, où vous en êtes? Est-ce que vous avez déjà comme amorcé certaines choses ou on comprendrait après un an?
Oui. Ben écoutez, d'abord, je suis arrivée en mandat le 10 août. J'ai été nommée le 22 juin, donc je complète mon année dans mois.
Oh là là, OK, donc moins d'un an,
Mais c'est pour dire que c'est souvent une année très charnière pour une nouvelle personne qui dirige une organisation, peu importe quel type d'organisation. Dans ce cas-ci, c'est une institution publique qui a une histoire vraiment importante et surtout qui arrive à un moment charnière où on célèbre un 150e anniversaire.
Oui.
Donc, c'est vrai que j'ai déjà annoncé dès mon arrivée que c'est un moment important pour dire on est à une croisée de chemin.
Oui.
On célèbre un parcours d'une institution publique qui a eu un impact phénoménal sur le développement du Québec, du Canada, puis l'innovation aussi dans son ensemble, à travers la communauté d'ingénieurs qu'on a formés, mais par la recherche qu'on fait. Mais c'est aussi une opportunité de se questionner par rapport à notre positionnement et le futur.
Tout à fait.
Et donc, dans notre première année, ce qu'on a lancé, évidemment, moi, j'ai lancé une initiative stratégique. Le plan stratégique était venu à échéance, donc j'ai lancé la réflexion stratégique. Mais à travers cette réflexion-là, il y a une activité importante qui s'est tenue le 15 mai dernier, qui était la journée de réflexion de la communauté de Polytechnique sur l'ingénieur de demain.
Okay.
Donc, notre réflexion, c'était de dire, face aux grands enjeux de société, dont vraiment l'urgence de la transition socio-écologique qu'on doit entamer comme société, comment une institution de Polytechnique peut se positionner dans la formation des futurs ingénieurs, des futurs scientifiques qui vont sortir de notre institution ou qui vont continuer avec des parcours de recherche pour les amener à faire face à ces enjeux-là, non seulement à faire face, mais de les prendre au corps. Une institution comme Polytechnique est une institution de technologie, essentiellement, un rôle fondamental à jouer. Moi, j'en suis convaincue. Mmh. Alors, avec ce discours-là, on a abordé cette journée-là avec des étudiants, des professeurs, des membres du personnel. On avait des membres de notre diplomation.
Oui.
On avait des gens de l'industrie avec qui on travaille. Puis on a posé des grandes questions par rapport justement aux compétences, les aspirations cette jeune génération-là. Mmh. Elles sont quoi, ces aspirations? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, à accomplir? Et nous, Polytechnique, qu'est-ce qu'on a de distinctif qui peut permettre à cette génération-là d'accomplir ses aspirations?
Oui.
Et donc, on est en train de colliger toutes les informations. Évidemment, il y avait eu des sondages en même temps.
Mm-hmm.
On collige toutes les informations et notre objectif, c'est d'en arriver vraiment à des grands thèmes.
Oui.
Évidemment, on va prioriser parce qu'il y a beaucoup de contenu qui est sorti. Mm-hmm. On va prioriser celles qui sont... et des grands thèmes qui vont venir s'imbriquer à travers les parcours de formation qui existent déjà.
Oui.
Donc, on ne transforme pas du jour au lendemain
ce qu'on fait. Pas, oui.
Mais comment est-ce qu'on intègre de façon beaucoup plus transversale certains concepts, le cycle de vie, par exemple, d'une technologie, comment est-ce qu'on intègre la pensée critique, parce qu'on parle du développement durable, mais on peut parler de l'intelligence artificielle.
Exactement,
aussi.
Tout à fait.
On peut parler de cybersécurité,
oui.
On peut parler... Donc, les grands thèmes, l'accessibilité à l'eau, les inégalités sociales, comment est-ce qu'on peut, à travers ce qu'on fait, nous, comme université, permettre à la société de résoudre ces enjeux-là.
Excusez-moi, mais pour vous, donc, l'image de l'ingénieur de demain, ce serait quoi dans votre... selon vous?
C'est sûr, moi, je vous ai nommé des éléments, mais c'est sûr qu'on ne forme pas en 4 ans quelqu'un qui est capable de tout résoudre, mais c'est quelqu'un qui est capable de continuer d'apprendre, quelqu'un qui a une conscience de l'impact qu'il a, que chaque élément... qu'il conçoit, parce qu'on parle beaucoup de conception en génie.
Exactement.
Chaque élément de conception, dès sa réflexion, est envisagé dans un concept vraiment social beaucoup plus grand.
Mm-hmm.
On parle plus de société durable que de développement durable, évidemment.
Oui.
Donc, cette conscience-là, elle est là. L'esprit critique face à tout ce qui lui est fourni comme information qui vient d'humain ou non.
Oui,
parce que maintenant, l'information, elle vient de différentes sources.
De différentes sources, exactement.
Donc, pour moi, c'est ces grandes caractéristiques-là. Et c'est ce qui est un peu ce qui est émané. Alors là, on est en train de réfléchir on va prioriser ces éléments-là, comment on les intègre dans le parcours.
Oui.
Après, au niveau de votre deuxième question, c'était sur la diversité.
Oui.
Ben là, on s'attaque vraiment à la réflexion. Il y a déjà beaucoup de mesures qui sont en place à Polytechnique. Hein. C'est une des universités qui est vraiment les plus fortes en recrutement des jeunes filles, mm-hmm. en sensibilisation au secondaire, au primaire, sur les sciences. D'ailleurs, je suis à Polytechnique, puis il y a des camps scientifiques où on va chercher des jeunes filles, on les sensibilise aux sciences,
d'accord.
à l'impact qu'elles peuvent avoir sur le monde. Et donc, on poursuit ces initiatives-là, mais là, nous, on est davantage un petit peu à réfléchir sur, quand je vous parlais des femmes professeurs,
oui.
comment on peut aller en chercher davantage, comment on peut mieux les intégrer, les recruter, s'assurer qu'elles choisissent un parcours scientifique. Mm-hmm. Une fois qu'elles sont chez nous, qu'elles décident d'aller en recherche pour devenir professeurs un jour, et une fois qu'elles sont chez nous, professeurs, comment on peut les accompagner pour devenir gestionnaires si elles le souhaitent
oui,
aussi.
Oui, oui.
Donc, on est là-dedans, là. On est vraiment okay. dans la... Une première année, c'est une année aussi de d'ouverture de chantier, plus
exactement.
Que d'établir directement les premières actions.
Tout à fait, mais ces chantiers-là
sont en marche.
En marche, en marche. Puis le plan stratégique, c'est prochainement, alors.
Oui, ben alors nous, ce qu'on entend, c'est dès l'automne, probablement annoncer notre grande aspiration
oui.
Pour Polytechnique, donc notre grande vision plus long terme, nos nouvelles valeurs, et dès le début de l'année 2024, mm-hmm. les plans d'action des... sur les 3 à 5 prochaines années
oui.
qu'on va mettre de l'avant.
D'avant, oui. Mm. Je vous pose la question, qu'est-ce qui vous différencie de vos prédécesseurs?
ben, c'est sûr, écoutez, c'est sûr que, on va pas se le mentir, là, je suis une femme.
Oui,
donc,
déjà.
Bon, je suis une femme, j'en ai connu de mes prédécesseurs, hein, dont
oui.
celui qui était directeur général lorsque j'étais là, André Bazergui, puis c'est mm-hmm. une personne extrêmement humaine. Alors, tu sais, souvent, on associe le caractère humain aux femmes.
Mm-hmm.
Et moi, je l'ai connu chez ce directeur général-là à cette époque-là. Je l'ai connu aussi chez le directeur général qui était présent lorsqu'il y a eu la tuerie
oui.
le 6 décembre. Donc, je vous dirais que l'élément le plus distinctif, c'est mm-hmm. mon parcours,
oui.
qui n'en est pas un de recherche. Je suis davantage quelqu'un qui a un parcours de gestionnaire et qui mm-hmm. apporte vraiment des yeux nouveaux de l'externe du milieu universitaire, puis qui essaie, sans nécessairement dire que mon objectif, c'est pas d'amener les grandes idées privées, parce que j'ai travaillé dans des OBNL mm-hmm. aussi
oui.
qui en arrachaient avec, je veux dire, quand on travaille dans une fondation, on fait le plus possible avec le moins de moyens possibles financiers.
Ouais.
Donc, on crée des miracles.
Mm-hmm.
Et puis, on est un peu dans l'institution publique, dans la même philosophie, là, à essayer de maximiser chaque dollar qu'on dépense. Mais c'est d'optimiser nos actions
oui,
pour
oui.
augmenter l'impact de chacune de nos actions.
Oui.
C'est ça le plus important.
D'accord. Mm.
Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Au micro avec Maude Cohen, présidente directrice générale de Polytechnique Montréal. Donc, Maude, vous vous êtes lancée en politique
ouais.
en 2012.
Mm.
Vous n'avez pas été élue.
Mm.
Comment a été cette campagne? C'est quoi l'expérience?
Ah. Ben, écoutez, une campagne électorale, c'est enivrant.
Oui.
On vit 30 jours.
Mm-hmm.
C'est très, très intense. Du matin jusqu'au soir, on est occupé. On est stimulé par les idées qu'on met de l'avant.
Mm-hmm.
Puis c'est vrai que nous, à l'époque, on avait décidé de lancer un nouveau parti. Je dis nous, mais c'était pas... Je veux dire, moi, je me suis joint à un nouveau parti
hein,
qui
ça.
Existait
oui.
puis qui amenait une idée nouvelle. Et cette idée nouvelle-là, moi, honnêtement, ça venait me chercher. Puis c'est
oui.
pour ça que j'ai dit, je vais essayer de faire le changement avec ce parti-là.
Mm-hmm.
Et quand on se présente en politique, on a vraiment envie de... Parce que honnêtement, il y a peu de personnes qui sont là qui ne veulent pas changer les choses.
Tout à fait, oui.
Moi, je crois fondamentalement que la grande majorité des politiciens sont en politique parce qu'ils veulent changer les choses.
Mm-hmm.
Et donc, c'est très enivrant, une campagne électorale.
Mm-hmm.
On rencontre des gens, on écoute les gens, on amène des nouvelles idées de l'avant. Mais à la fin de tout ça, lorsque ça se termine, puis moi, je le savais depuis quelques jours.
Oui.
En fait, je le savais même avant la campagne.
Oui.
Parce que j'ai appris que Léo Bureau-Blouin allait être le candidat
oui.
Du Parti québécois dans le comté. Puis Puis je me doutais que ça allait pas fonctionner parce qu'il avait vraiment une vague de popularité, une vague, les gens le connaissaient beaucoup plus grand, beaucoup plus que moi. Et puis, mais je suis allée quand même avec beaucoup de conviction parce qu'on lançait le nouveau parti, puis il fallait qu'on essaye, tu sais. Mais c'est très enivrant. Puis à la fin de tout ça, quand la campagne se termine, on n'a pas gagné. Je vais vous avouer que j'étais pas tant que ça déçue.
Oui, oui.
Quand j'ai vu les réseaux sociaux de ce moment-là, comment ça, c'était le début de Twitter en politique. Puis déjà là, on sentait qu'il y avait de drôles de choses qui se passaient. Puis ça s'est terminé, puis j'étais épuisée.
Oui.
J'étais fatiguée. Et j'avais terminé l'Ordre des ingénieurs juste avant ma présidence. Donc, je suis arrivée à la fin de la présidence de l'Ordre des ingénieurs fatiguée. J'ai fait 30 jours complètement.
Oui.
Et j'étais... Et honnêtement, ça a été vraiment une bonne chose d'avoir eu une pause, là.
Ah oui.
Parce que je suis passée d'un projet à l'autre rapidement. Puis je ne m'étais pas vraiment posé la question. C'était quoi mon prochain défi qui allait m'intéresser?
Oui, je comprends.
Et ça fait beaucoup de bien, ça, je vous dirais après.
Oui.
De dire, j'avais regardé mon mari, je dis, ça ne te dérange pas si je prends 3-4 mois. Là. J'ai besoin de me reposer, me recadrer. Je suis allée attacher des patins à l'aréna pour mon fils à l'école. J'ai fait des sorties. Mais je me suis comme recadrée un peu, ressourcée. Puis ça m'a permis de réfléchir. Et puis là, je me suis positionnée face à ce que j'allais faire après. Puis j'ai décidé de prendre le temps de le faire. Donc, de m'assurer que le prochain défi que j'allais prendre allait être celui qui allait venir rencontrer mes aspirations.
Oui, oui. Vous le dites, hein, parce que c'est pour ça que je vous pose cette question. Vous êtes amie de longue date de Dominique Anglade.
Oui.
Vous étiez même des condisciples de classe, très, très amies. Donc, est-ce qu'après votre propre expérience et celle de votre amie Dominique Anglade qui a dû remettre sa démission, est-ce que vous conseillerez à une jeune femme de se lancer en politique?
Ah, je pense que oui, encore.
Oui, quand même.
Ben, c'est sûr que moi, je sais quel serait mon choix. Bon, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, je vais dire la même chose, mais je le sais quel serait mon choix parce que j'ai choisi volontairement d'être plus souvent à Montréal qu'ailleurs. Parce que je voulais être près de mon fils, que je considérais qu'il avait besoin de moi. Mais malgré tout, quelqu'un qui a envie de faire la politique, on a besoin de ça. Il m'est arrivé dans la dernière campagne électorale, juste avant, de conseiller deux femmes, pas des jeunes femmes, femmes qui se posaient la question si elles allaient y aller, puis comment faire, puis je leur ai donné mes conseils vraiment sans biais, hein, parce que chacune sont allées dans deux parties différentes, donc c'était pas... Mais au contraire, je pense que ça va nous prendre de ces gens-là. Juste comme société, il faut qu'on réfléchisse à quel type de politicien on veut. Puis quel... Je le dis souvent, là, on commence à exiger de la part de nos politiciens des politiques de conciliation travail-famille.
Mais
on exige des choses complètement différentes d'eux.
Tout à fait.
Ils ont des vies complètement folles. Alors, il faut être prêt à embarquer là-dedans aussi. Il faut en être conscient. Mais il va falloir que ça change, je pense. Puis je sais pas comment on va réussir à trouver une façon de régler ce qui se passe sur les réseaux sociaux et dans notre vie quotidienne, mais la proximité que les réseaux sociaux donnent entre les politiciens puis la population, on dirait que cette proximité-là fait en sorte que tout est permis maintenant.
Exactement, oui, tout à fait.
Mais donc, on a une grande réflexion de société à avoir pour voir comment on peut rendre ça plus sain, parce que les gens qui sont là, peu importe le parti, ils ont envie de faire les bonnes choses.
Oui, sans aucun doute. Maud, qu'est-ce qui... on va un petit peu dans le personnel. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui...
Ah, c'est une grande question, ça. Vous savez, je trouve tout le temps philosophiquement une façon de ne pas me mettre en colère. Mais je vous parlais de ce qui se passe en ce moment. Ça me met en colère de voir vraiment comment on traite des gens qui sont dans la vie publique et qui se donnent. Et parfois, on n'aborde pas leurs idées. On aborde qui ils sont.
Ouais.
Et je ne sais pas comment on en est arrivé à ça. Ça me met en colère. Puis que ça soit en politique ou que ça soit dans une vie publique, un dirigeant
d'entreprise ou d'organisation.
D'organisation. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est déviant là en ce moment. Donc ça me met un peu en colère. C'est sûr que les inégalités aussi me mettent en colère. Mm-hmm. Puis, ultimement, c'est surtout comment on peut rendre accessible davantage à tous les chances de réussite. Puis ça, honnêtement, on n'a pas trouvé encore à résoudre la quadrature du cercle. On dit ça souvent en science. Il faut résoudre la quadrature du cercle. Mais on n'a pas résolu ça. Donc, c'est sûr qu'il faut essayer de trouver des solutions face à ça. Et l'autre élément, je vous dirais, c'est tout ce qui se passe. On parle de développement durable, d'enjeux climatiques. C'est que malgré le fait qu'on en soit tous conscients puis qu'on soit confrontés en ce moment à ce qui se passe, qu'on le sent, là. Mais malgré ça, on dirait qu'on est sur une lancée, qu'on a de la difficulté à freiner. Et on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain parce que ça causerait toutes sortes d'enjeux, dont des inégalités encore plus fortes. Mais il faut trouver une façon de ralentir ça, puis je ne sais pas comment on va y arriver. Bref, mais ça me rend en colère. Puis colère est un gros mot, hein. Moi, je suis toujours optimiste face au futur. Je me dis, il faut qu'on trouve des solutions, puis je pense que la jeune génération va nous donner des leçons face à ça.
Ben oui, tout à fait. Non, parce que vous êtes aussi une femme de communication, donc sociale et tout. Alors souvent, cette colère-là, on la digère peut-être autrement.
C'est ça. C'est à travers l'impact. C'est à travers ce qu'on fait au quotidien. Donc, c'est vrai que ma carrière, surtout depuis l'Ordre des ingénieurs, elle est axée vraiment sur un métier d'impact.
C'est ça.
À travers différents moyens.
Oui.
Mais je cherche toujours à m'impliquer dans des causes à travers mon travail quotidien. Pour justement peut-être essayer de trouver des solutions. Alors, je mise beaucoup sur la jeune génération depuis quelques années, depuis la fondation du Sainte-Justine, mais parce que je pense que honnêtement, c'est elle qui va réussir de toute façon. Elle est déjà très, très consciente de ça. Elle nous donne des leçons face à ça.
Tout à fait. On parlait d'impact. Donc maintenant, ce que je vous pose, quel serait l'impact que vous auriez aimé créer au sein de Polytechnique Montréal, c'est-à-dire que pendant le temps que vous y êtes?
Il y a différents éléments. Polytechnique a des enjeux rattachés à sa mission première, qui est la formation, l'enseignement qui s'y donne et la recherche qui s'y fait. Là-dessus, en tout cas, à la fin de mon premier mandat, qui est de 4 ans, après, on verra si j'en ai un deuxième. Ça demande un renouvellement,
tout
ça.
Tout à fait,
Mais après le premier mandat, c'est sûr que je veux qu'on sente une direction quand même assez assurée sur comment tout ça s'imbrique, la réflexion, justement, dont je viens de parler, là, sur l'ingénieur de demain. Comment tout ça s'imbrique à travers notre mission de recherche et d'enseignement. Comment on a réussi à intégrer dans nos parcours d'enseignement, de formation, des concepts qui permettent d'amener justement cette conscientisation-là de l'impact de chaque geste qu'un ingénieur ou qu'un scientifique peut poser. Même chose à travers nos programmes de recherche, comment est-ce qu'on peut, nous, identifier les grandes thématiques sur lesquelles on va pouvoir avoir un impact concret à la fois sur le développement durable, mais sur l'innovation et sur vraiment comment on peut pousser davantage certaines thématiques de l'avant. Et c'est sûr que le développement durable, cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'accessibilité à l'eau, ça va être des grands, grands enjeux pour nous là, auxquels il va falloir s'attarder. Donc ça, je vais vouloir voir quelque chose d'important, à tout le moins une grande direction donnée d'ici 4 ans.
D'accord.
Et un plus grand impact en 8 ans. La recherche, c'est long, hein? On peut pas s'attendre à des résultats en 2 ans. Mais c'est sûr que Polytechnique, comme organisation, a aussi une vie. Il y a des employés qui travaillent au quotidien, il y a des professeurs qui y œuvrent, il y a des étudiants, et il y a des défis comme n'importe quelle institution. Donc, on a un campus qui a accueilli beaucoup plus d'étudiants qu'on avait d'espace depuis un certain temps. Oui. On a besoin de les faire évoluer, de le faire grandir, d'aussi de le faire évoluer comme campus, comme milieu de vie plus accueillant, parce que il y a des bâtiments un petit peu plus vieux et qui doivent vraiment respecter les plus grands concepts de développement durable aussi. On a aussi des enjeux par rapport à l'équité, la diversité et l'inclusion dont on parlait, le rapprochement avec les premiers peuples qui, pour nous... on n'a pas de communauté. Il y a des universités au Québec qui sont très, très près physiquement de communautés. Nous, on l'est moins, mais comment on peut travailler un peu plus main dans la main, faire certains rapprochements avec elles, celles qui ont envie, en tout cas, celles qui ont besoin qu'on travaille avec elles. Puis nous, on pourra le faire, pour moi, l'équité, la diversité et l'inclusion, ça va être une grande thématique des prochaines années, assurément, comme institution. On doit... faire plus avec, je vous l'ai dit, c'est des défis.
C'est sûr.
Quand on a 17% de notre population de professeurs qui est femme, on ne peut pas dire qu'on va avoir 50% de nos gestionnaires professeurs qui vont être des femmes. Mm-hmm. Il faut les amener à évoluer vers ce parcours-là. Donc ça va être vraiment des actions concrètes, mais qui vont démontrer une plus grande... Et puis, avec un peu de chance, un peu plus de filles qui décident d'entrer dans nos murs pour faire un parcours de formation.
Tout à fait. Et est-ce que avec votre venue, ça fait un an, est-ce qu'il y a, je pose la question, peut-être y répondre aussi, est-ce qu'il y a des résistances à certains changements ou ça fait partie du quotidien de gestionnaire, quoi, de faire passer ses idées et tout?
Ben, il y a toujours de la résistance au changement.
Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit, poser la question, c'est y répondre.
Partout, mais bon, c'est sûr qu'on n'est jamais parfait en plus là-dedans, mais ça passe beaucoup par la communication, par la formation des gestionnaires, on parlait de l'impact du geste de l'ingénieur, mais c'est la même chose, l'impact de chaque geste de gestionnaire. Parfois, on se trompe, parfois on fait un geste, puis on n'avait peut-être pas réfléchi à l'ensemble des impacts, et puis... C'est des erreurs, mais c'est d'être capable d'admettre ces erreurs-là. Donc, c'est dans la formation aussi des gestionnaires, comment les amener à évoluer, être capable d'accompagner leurs employés, de leur offrir des parcours stimulants. On a les mêmes enjeux que le reste de la société. Hein? Le recrutement des employés, des professeurs chez nous, c'est un défi aussi. Donc, la rétention est plus importante. Alors, comment on fait évoluer le talent, les compétences des individus dans notre organisation pour être sûr qu'on les maintient engagés envers la mission? C'est des grands défis, mais pour ça, ça implique de l'accompagnement, de la formation, des communications, parler aux gens, écouter les gens.
J'ai vu que vous siégez sur plusieurs conseils. On parle de l'Auto-Québec, Aéroport de Montréal, responsable du comité d'experts du REM de l'Est de Montréal. Est-ce que vous êtes hyper active? Puis comment vous arrivez à concilier? Je sais que vous avez parlé
Il me reste qu'un conseil d'administration. Là. Je suis sur l'Auto-Québec. Le REM de l'Est, je l'ai fait, je l'ai terminé l'année dernière.
D'accord.
Et c'était un comité qui avait un temps de vie. puis Aéroport de Montréal, c'est il y a quelques années. Donc, mais c'est, encore là, ce sont des conseils à mission ou c'est des comités à mission. C'était bien important pour moi de le faire. C'est vrai que j'en prends beaucoup.
Et c'est
vrai que là, je me repositionne bien en ce moment pour dire ce que je garde dans mon assiette, c'est ce que je suis capable d'accomplir à 100%. Puis, sachant que je cherche toujours à être présente aussi pour ma famille le plus possible, mais j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est extrêmement engagé aussi.
Oui.
Dans la vie de famille.
Oui.
Et on dirait que c'est un pacte qu'on a, lui et moi, sur comment on se répartit tout ça, parce que c'est vrai qu'il en prend plus que moi au niveau de la maison. Et puis, j'en suis extrêmement reconnaissante parce que Moi, si c'était moi, je le sous-traiterais. Parce que j'y arriverais pas. Donc, mais bon, lui, il choisit de le faire et puis c'est correct, mais c'est son choix parce que je lui ai dit, si t'as envie, on peut aller chercher quelqu'un qui nous aide là-dedans.
Oui, oui, oui.
Mais
oui.
Il a envie de le faire, il a envie d'être un peu plus là, mais ça serait pas possible sans ça.
C'est ça.
Donc, je suis hyper active, oui, mais parce que j'ai un conjoint à la maison qui m'aide énormément. Oui. Puis,
ça vous stimule.
Ben oui, puis il faut le reconnaître. Il a un apport considérable sur ma carrière.
Mm-hmm.
Et lui-même a sa propre carrière. Oui. Puis lui-même a ses propres engagements professionnels. Donc, c'est important de reconnaître quand on s'accompagne, on est une équipe. Puis on a un enfant. Donc, la vie a fait qu'on n'a pas pu en avoir plus. Et c'est peut-être aussi une chose qui nous permet d'en réaliser plus.
Oui, oui.
Parce que je ne sais pas si j'aurais été capable d'en faire autant non plus avec... au début, je voulais 3 enfants.
Ah oui! Ben oui,
Donc, j'en ai eu juste un. Donc, je ne sais pas, 3 enfants, je ne sais pas. Ouais. Je ne peux pas le dire. Quoique, j'ai d'autres amis qui en ont plus, qui ont eu des carrières aussi importantes. Mm-hmm. Mais ce n'est pas les mêmes choix.
Oui.
De retour avec Maude Cohen, présidente directrice générale de Polytechnique Montréal. Maude, ben merci de répondre à mes questions. Vraiment, c'est très intéressant. Mm. Et puis, je vous écoute et puis je vous vois, ben, premièrement, comme une personne d'engagement social aussi, de gestionnaire, de tout. Vous avez accompli quand même, vous avez fait le tour.
Mm.
Maintenant, je me demande si vous auriez une baguette magique, quel aurait été le projet? Donc, une baguette magique, il n'y a pas de problème de finance, financier. Qu'est-ce que vous auriez accompli? Qu'est-ce que vous aimeriez?
Oh, c'est toute une question. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire.
Oui, oui, j'en doute pas.
Ben, bon, c'est sûr que... C'est sûr qu'on travaille là, à Polytechnique à améliorer nos parcours de formation, à améliorer la recherche, mais si j'avais une baguette magique, moi, j'aimerais vraiment faire en sorte qu'on ait trouvé, à tout le moins, je veux pas être trop optimiste,
oui.
parce que c'est tellement un grand défi, mais qu'on ait trouvé des enjeux à la transition énergétique à laquelle on fait face, et de façon très égalitaire, équitable à travers le monde.
Mm-hmm.
Donc, ça soit pas encore les grands pays en développement ou développés, qui soient en mesure de se développer, puis que ça soit pas équitable. Donc, c'est une première chose. Si, à travers ma carrière, il y a quelque chose que j'aurais pas réalisé, que j'aurais aimé, qui se réalise différemment, puis c'est pas nécessairement mes moyens, c'est pas nécessairement ce que j'y ai fait, mais le projet du REM de l'Est, je vais vous avouer, là, puis en plus, on en entend parler
c'est
en ce moment.
C'est ça, oui, tout à fait.
Et on voit toute la complexité d'un projet de transport collectif pour une île comme Montréal qui s'est pas attardé à cet enjeu-là assez tôt dans son développement et ça représente des défis.
Mm-hmm.
Le souterrain représente des grands défis aujourd'hui pour une île comme Montréal avec ce qu'on a comme infrastructure souterraine déjà. Mais c'est sûr que si j'avais une baguette magique, faudrait trouver, au-delà du REM de l'Est, là, faudrait trouver vraiment un grand enjeu à la mobilité sur l'île de Montréal. Par rapport au projet que moi, j'ai accompli dans ma carrière.
Oui, oui, oui.
Mais c'est sûr que la première baguette magique, je la mettrais sur Polytechnique.
Voilà, c'est bon.
Par rapport à ces grands défis, à ces grandes ambitions pour le futur, qu'on soit capable vraiment d'être un acteur de changement dans tout ce mouvement-là par rapport au développement durable.
Mm. Une deuxième baguette magique pour un projet personnel?
Mon Dieu. Projet personnel, j'en ai peu qui sont pas... ça pourrait être un voyage, ça pourrait être...
ouais.
Non, mais j'ai pas de... Vous voyez, mes projets professionnels sont tellement imbriqués dans mes valeurs.
Oui, je vois ça tout à fait.
Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que ma carrière est imbriquée dans mes valeurs.
Oui. Ouais.
Et je me réalise, je m'accomplis à travers ma vie familiale et à travers l'impact que j'ai dans ce que je
fais. Tout à fait.
Donc, si vous me demandez un coup de baguette magique pour moi personnellement, ça serait d'être certaine de réussir à faire en sorte que mon fils s'épanouisse, puis qu'il lui aussi ait une carrière où il se plaît, puis qu'il ait du plaisir dans la vie, à réaliser ce qu'il a à réaliser.
Mm-hmm.
Mais moi, c'est vraiment, ça va toujours être par rapport à mes projets professionnels.
C'est ça. Parce que ce que j'entends, ce que je vois aussi, c'est que la passion aussi qui se retrouve dans votre carrière.
Oui, exactement. Mm-hmm. Mais parce que j'ai trouvé un endroit, des endroits où je me réalise d'un point de vue impact social.
Social, oui.
Et c'est imbriqué dans ce que je souhaite profondément accomplir. Mm-hmm. Donc, je peux pas faire autrement que d'avoir une baguette magique qui...
ben, je vois.
Oui.
Vous êtes une femme d'inspiration, ça sans aucun doute. Mm. Avez-vous eu des femmes d'inspiration dans votre vie?
Ben en fait, les femmes d'inspiration que j'ai eues, c'est des femmes que j'ai côtoyées vraiment.
Oui.
Puis c'est pas nécessairement des grandes dames. Je veux dire, c'est sûr que Michelle Obama pour moi c'est une femme inspirante.
Oui.
Mais Sophie Brochu c'est une femme inspirante. Mm-hmm. Je l'ai côtoyée un petit peu Sophie Brochu.
Oui.
Mais ce sont des femmes partout à travers ma vie que j'ai eues. Et certains hommes qui m'ont aussi inspirée à travers différentes façons. Des fois, c'est des petits moments, ils ont fait un truc qui m'a vraiment donné une impulsion, de me donner envie de faire la même chose, ou qui m'ont montré un chemin à parcourir, comment être un leader accessible, comment être une personne qui est proche des gens, comment écouter les gens, poser des questions pour s'intéresser à ce qui vient les chercher. Donc, il y a eu des femmes, c'est sûr, il y a eu ma mère, la première. Ensuite, il y a eu des amis. J'ai des amis encore que je vois à travers les réseaux sociaux. Puis des fois, il y a un petit mouvement, puis elles me disent un truc. Puis là, je me dis, ah, mince, tu sais, ça, c'est quelque chose d'inspirant. Donc, c'est à travers des micro-gestes, des micro-actions que parfois, je réussis à m'inspirer.
Oui, oui. Puis pour votre fils, vous êtes une source d'inspiration?
Ah, je l'espère, mais vous savez, mon fils, comme plusieurs adolescents, cherche un peu, ça va être quoi son chemin,
tu sais.
Et j'espère être une source d'inspiration, mais surtout, ce que je souhaite, c'est que je ne sois pas une source de pression. Et je suis pas certaine que je suis pas un peu. Donc, je veux pas qu'il considère que sa vie, pour être réussie, doit être absolument celle d'une vie similaire à sa mère.
Oui.
Une vie qui réussit, c'est une vie où on s'accomplit à travers ce qu'on a envie de faire, puis l'impact qu'on a envie d'avoir. Puis s'il réussit ça, ben je vais être heureuse pour lui. Peu importe ça va être quoi le chemin. Puis c'est pas nécessairement en ayant un parcours similaire ou identique au mien.
Oui, tout à fait. Pour terminer, une valeur qui vous incarne profondément.
Ça, je vais le dire, c'est vraiment pour moi l'authenticité. Puis on en parle beaucoup. C'est vraiment pas un terme galvaudé pour moi. Je peux vous le dire. Je suis très ouverte, transparente. J'hésite pas à parler des enjeux auxquels je fais face personnellement ou auxquels l'organisation auquel j'appartiens fait face. Parce que c'est en partageant les enjeux que l'on vit qu'on est capable de travailler ensemble à trouver des solutions.
Mm-hmm.
Et au contraire, lorsqu'on ne partage pas ces informations-là, les gens ne comprennent pas les décisions qu'on prend et ne peuvent pas non plus apporter leur créativité, leur innovation à nous aider à tenter de trouver des solutions. Donc, l'authenticité, l'ouverture, la transparence sont des choses qui sont vraiment rattachées les unes aux autres, des valeurs imbriquées. Et c'est fondamental à mes yeux.
Mm-hmm, mm-hmm.
Je reviens souvent là-dessus. Quand on vit des difficultés, si on ne les partage pas avec les autres ne se sentent pas en mesure de les partager avec nous.
Mm-hmm.
Et c'est là qu'on a des enjeux de compréhension les uns envers les autres. C'est là qu'on voit des choses comme des burn-out,
oui.
Parce que les gens ne se sentent pas en mesure de sortir ce qu'ils mm-hmm. vivent ou de contribuer à l'organisation ou à améliorer finalement les choses.
Tout à fait. Alors, sur ces derniers mots de message d'authenticité, merci Maud Cohen d'avoir accepté notre invitation. Puis, vous êtes une source d'inspiration pour les jeunes filles qui vont vouloir embrasser cette carrière. Mm. Donc, merci pour ça.
Ah, ben merci à vous pour l'invitation. Merci de faire ces...
Oui, alors, de mettre...
Cette activité-là.
Tout à fait. Donc, pour justement... l'authenticité, c'était vraiment... c'est important parce que les auditrices, auditeurs qui nous écoutent, mais beaucoup les jeunes aussi, c'est important de le dire.
Exact.
Alors, je rappelle que mon invitée est Maud Cohen, présidente directrice générale de Polytechnique Montréal. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Nicolas Vartam à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté à la diffusion technique et ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.